Il est 7h.
Le voile, monsieur le ministre, n'est pas un vêtement ordinaire, banal, anodin. C'est l'étendard de l'islamisme et de son idéologie.
Passe d'armes cette nuit à l'Assemblée nationale lors du débat sur le projet de loi contre les séparatismes entre notamment Éric Ciotti et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin, une demi-heure d'entretien à partir de 8h15. Jean Castex fait le point sur l'épidémie de coronavirus ce soir 18h, à l'heure du couvre-feu qui, vous l'entendrez, a changé certaines de nos habitudes, notamment lors des courses au supermarché. Dans ce journal, un témoignage bouleversant. Marion a 16 ans, elle s'assume en tant que jeune femme, mais elle est née garçon. Notre dossier ce matin: l'éducation nationale est-elle armée pour recueillir la parole des jeunes transgenres?
Les gens, ils cherchent pas à comprendre, ils jugent d'un seul regard, ou alors qu'ils cherchent pas à comprendre qui tu es et ce que tu as traversé pour en arriver là.
Et puis le foot, un point et beaucoup d'interrogations encore pour les footballeurs marseillais de partout hier soir à Lens en Ligue 1.
Juste après ce journal, après avoir sauvé la zone euro, Super Mario, Mario Draghi va-t-il sauver l'Italie? L'éclairage éco, Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette. Les Jeux Olympiques de Tokyo, quoi qu'il en coûte, les Japonais et la méthode Coué, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement ne voulait pas en entendre parler pour ne pas polluer le projet de loi destiné à lutter contre les séparatismes, mais les députés républicains ont engagé un débat sur le port du voile hier soir à l'Assemblée nationale.
Éric Ciotti en tête. Ils ont notamment proposé un amendement sur l'interdiction à l'université et lors des sorties scolaires.
Le voile, c'est le vêtement que la République islamique impose aux femmes pour les masquer, pour les dissimuler, pour qu'elles ne soient pas l'objet de tentations. Le ministre de l'Éducation soulignait également qu'il n'est pas le bienvenu dans la République. Alors, pourquoi ne pas agir? Pourquoi cette hésitation? Pourquoi vous avez la main qui tremble?
Et la réponse cinglante du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Humilier l'identité musulmane, c'est prendre le risque de la radicaliser. La laïcité, c'est aussi dire à tout le monde qu'on a le droit de croire. Je ne dis pas que le voile, le foulard ou tout vêtement religieux n'est pas un moment de prosélytisme ou d'asservissement. Je dis qu'il ne l'est pas à 100%.
Et les amendements de la droite ont été rejetés.
Et Gérald Darmanin est l'invité ce matin d'Europe 1. Notez-le bien, rendez-vous 8h15 avec Sonia Mabrouk, mais aussi avec vous, 3921, le standard d'Europe 1, pour poser vos questions au ministre à partir de 8h30 tout à l'heure.
Gérald Darmanin, justement, c'était lui, souvenez-vous, qui avait ordonné en octobre dernier la fermeture administrative de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. C'était quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty.
L'établissement devait fermer pour 6 mois, mais pourrait rouvrir ces prochains jours. Après seulement 3 mois et demi, Gérald Darmanin a salué les efforts des gérants qui, je cite, ont fait le ménage.
Alors concrètement, quels changements sont survenus à la mosquée pour Europe 1? Justin Morin s'est rendu sur place.
Regardez, on est devant la porte de la mosquée. La grande mosquée de Pantin. Ah, regarde, comment elle est devenue.
Ahmed se désole de voir sa mosquée laissée à l'abandon. Derrière le portail noir fermé, des tas de feuilles mortes, des morceaux de tôle défraîchie. Heureusement, la réouverture ne devrait plus tarder.
Alhamdoulilah, on est content.
À ses côtés, Drami Abdulrahman, un des imams, explique que des mesures ont été prises pour convaincre la préfecture qu'il respecte les règles, à commencer par l'installation de 4 caméras.
Sur ces poteaux-là, ils vont installer ici, ils vont installer une autre à l'extérieur et 2 à l'intérieur. On veut tout faire en transparence. On ne cache rien de tout.
Un autre imam était accusé de tenir des propos radicaux. Dans ses prêches, Ahmed s'agace.
Il est parti. Donc maintenant, on a un imam de la mosquée de Paris qui le connaît, c'est un gars qui est bien, on n'a rien à cacher.
Quant à la page Facebook de la mosquée sur laquelle avait été partagée la vidéo incriminant Samuel Paty, le recteur promet qu'elle sera surveillée de très près. Souleymane, habitant et fidèle du quartier, salue ces avancées.
C'est une satisfaction pour les fidèles. Ce qui est important, c'est de respecter la loi française, qu'on nous laisse pratiquer notre religion.
Avant sa fermeture, près de 2000 personnes venaient prier chaque vendredi dans cette mosquée.
Reportage Europe 1 signé Justin Morin. 19 jours maintenant que nous sommes tous au même régime sanitaire. Couvre-feu pour tous dès 18h.
Et forcément, ça chamboule l'organisation du quotidien, notamment quand il s'agit d'aller faire ses courses dans les supermarchés. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Alors Carole, on dispose ce matin des tout premiers enseignements du couvre-feu dans la grande distribution. Dites-nous ce qui a changé dans nos habitudes.
Alors, pour commencer, on ne remplit pas moins notre frigo depuis le couvre-feu. Au contraire, notre consommation a augmenté de 5% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier. On achète plus parce qu'on mange moins à la cantine ou au restaurant. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir tous acheter au même moment et ça entraîne des pics de fréquentation vers 17h et surtout le samedi, en particulier dans les grandes villes. Pourtant, les enseignes ont bien tenté l'ouverture dès 7h30 le matin. Mais ça ne marche pas forcément, selon le président de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel.
Dans les grandes villes, on voit bien que c'est très difficile d'aller très tôt le matin ou d'aller faire ses courses entre midi et 2h. Dans les petites villes, la situation est différente parce que dans ces cas-là, il y a effectivement un report beaucoup plus important vers les courses à l'heure du déjeuner. Et on voit bien que dans ces cas-là, ça marche beaucoup mieux.
Et pour limiter les risques lors des pics de fréquentation, quasiment toutes les enseignes ont augmenté le nombre de caisses ouvertes à l'heure du déjeuner et jusqu'à 18h. Certaines ont même du personnel pour gérer les flux au rayon fruits et légumes. C'est celui où on a le plus tendance à s'agglutiner.
Les explications de Carole Ferry.
Et ce soir, à 18h, l'heure du couvre-feu justement, Jean Castex et plusieurs ministres, dont Olivier Véran, font le point sur l'épidémie de coronavirus en France. Chiffre de contamination stable, mais des variants en progression. Le Premier ministre va insister sur le respect des consignes sanitaires.
L'ancien candidat à la présidentielle François Asselineau, placé en garde à vue, le président de l'Union populaire républicaine qui milite pour une sortie de la France de l'Union européenne, est accusé d'agression sexuelle par deux anciens salariés du parti, Mathieu Bock.
Il y a plusieurs mois déjà, ces deux personnes, la première dans le département de l'Allier et l'autre à Paris, portent plainte pour harcèlement moral, sexuel et agression sexuelle. Le 15 mai dernier, le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête qui débouche donc sur la garde à vue de François Asselineau. Ces plaintes interviennent dans un contexte déjà très compliqué pour le parti souverainiste. Au printemps dernier, plusieurs dizaines de cadres avaient réclamé le départ de leur président en évoquant, je cite, « l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes de la part de M. Asselineau à l'égard de salariés de l'UPR. » Source de graves souffrances psychologiques. François Asselineau, lui, a toujours rejeté ces accusations. Son entourage explique que ses salariés n'étaient même pas encore embauchés quand ces actes auraient soi-disant eu lieu et va même plus loin aujourd'hui en parlant d'un règlement de compte, un putsch de la part d'une poignée d'adhérents qui voudraient prendre le contrôle du parti.
Explication signée Mathieu Bock.
Europe 1, il est 7h07 et nous voulions vous parler ce matin de ces adolescents qui réclament une nouvelle identité. Ces jeunes transgenres, ils sont nés dans un corps garçon ou fille, mais dans leur tête, ils se sentent du sexe opposé.
Selon les associations, 15 000 personnes en France se revendiquent comme telles, et parmi elles, certaines sont au collège ou au lycée. Une situation qui peut être très délicate à gérer pour les professeurs et les directeurs d'établissement.
Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour à tous.
Alors d'abord, Angèle, expliquez-nous, qu'est-ce que ça signifie être transgenre ?
Eh bien, être transgenre, c'est ne pas être en accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Selon le Conseil de l'Europe, ça représente une personne sur 500. Sauf qu'actuellement, il n'existe aucune formation à destination des enseignants pour accueillir des élèves trans, que ce soit leur parole ou leur revendication. Comment réagir quand ils souhaitent qu'on les appelle par le prénom qu'ils ont choisi, par exemple, ou bien quand ils demandent des toilettes mixtes. J'ai pu rencontrer Marion, 16 ans, au jean pas de def et au maquillage rose sur les yeux. Elle s'assume en tant que femme depuis un an, mais elle reste très fragile. Pendant notre entretien, elle était souvent au bord des larmes. Son quotidien est compliqué au lycée.
Les gens, ils cherchent pas à comprendre. Ils jugent d'un seul regard ou... alors qu'ils cherchent pas à comprendre qui tu es et ce que tu as traversé pour en arriver là. Je pense qu'il faudrait réaménager certaines choses pour faire sentir mieux les élèves. Le genre du mauvais genre, je le vis pas forcément très bien, mais vu que c'est assez récent que j'ai vraiment pu mettre des mots sur tout ça, faut aussi que moi je fasse la part du chemin et pour que les autres fassent de même. J'ai encore des moqueries, j'ai encore tout ça, mais maintenant je sais qui je suis. Et c'est le plus important.
Et si Marion se sent mieux aujourd'hui, c'est grâce à une enseignante qui a perçu son mal-être, qui l'a écouté et qui l'a soutenu.
Alors justement, ce témoignage bouleversant à votre micro, Angèle, on se souvient, en décembre dernier, l'émotion à Lille, une lycéenne transgenre avait mis fin à ses jours. Certains avaient pointé du doigt, justement, un manque d'écoute de l'équipe pédagogique. Est-ce que l'éducation nationale a conscience du problème aujourd'hui ?
Oui, mais aujourd'hui, certains professeurs sont perdus car ils n'ont jamais rencontré de personnes transgenres dans leur carrière. Et il n'y a aucune ligne directrice commune pour agir. C'est ce que déplore Laurence Desmarais, secrétaire départementale du syndicat SNUEP-FSU.
C'est à la bonne volonté de chacun, un peu à la va comme je te pousse, c'est-à-dire en fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ça serait vraiment génial si on pouvait avoir quelqu'un qui nous dit « attention ». Vous avez le droit de faire ça, mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que je me dis que si ça se trouve, il y a des gamins qui sont passés à côté de nous, on n'a pas vu leur mal-être. Et est-ce qu'ils sont toujours là aujourd'hui? On ne sait pas.
Ce que l'on sait, c'est que le ministère de l'Éducation prépare un guide à destination des professeurs comme des directeurs d'établissement pour qu'ils sachent mieux accompagner les élèves transgenres. Les associations, cependant, restent dubitatives sur le fait de pouvoir former plus d'un million de professionnels de l'éducation.
Dossier signé Angèle Châtelier.
7h10 sur Europe 1 et je vous propose maintenant qu'on s'aère un peu l'esprit.
Avec quelques longueurs à la piscine, pourquoi pas? Alors je sais, vous allez me dire, les piscines sont fermées, mais sachez-le Mathieu, les bassins en extérieur ont le droit d'accueillir du public. C'est le cas à Orléans. Jean-Gabriel Bourgeois s'y est rendu et vous allez l'entendre, les nageurs, on oublie même les températures hivernales.
Tant que vous avez les épaules dans l'eau, vous n'avez pas froid. Hein.
12 degrés à l'extérieur et 27 dans l'eau, un bonheur retrouvé.
Heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai qu'avec toutes les salles de sport qui sont fermées, pour moi c'est le Saint Graal.
Adepte du triathlon, Stéphanie a même fait une heure de route depuis Blois pour replonger.
Quand on nage 5 fois par semaine et qu'on se retrouve à zéro, c'est très compliqué. Donc c'est un bonheur de pouvoir retrouver la piscine.
Les nageurs sont priés de circuler en évitant de se croiser. Pas de jeu d'eau, ni de plongeon. Nino, 9 ans, est un peu déçu.
Peut-être qu'ils auraient peut-être pu laisser un petit espace pour jouer.
Au bord de la piscine, le seul qui porte un masque, c'est Alexis, le maître nageur.
On essaie de limiter le nombre de personnes par ligne. Actuellement, on est à 12 personnes par ligne au maximum et ensuite on bloque les entrées.
Car il y a quand même quelques règles à respecter, pas plus de 100 personnes en même temps dans l'eau et il a fallu s'adapter dans les vestiaires. Sens de circulation, gel hydroalcoolique, cabines et casiers condamnés en partie. Johan Pro est responsable des piscines à Orléans.
On va peut-être avoir 10 casiers ouverts, les 10 autres fermés. Et après, on va fermer les 10 premiers et ouvrir les autres, ce qui nous fait gagner du temps dans les tâches de désinfection.
Un nettoyage intensif d'une heure après chaque créneau d'ouverture de la piscine. Orléans, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Le foot. Vous vous y baignez, vous, là, avec les températures?
Alors là, non, moi, pas du tout.
Non, je crois pas.
C'est pas du tout pour moi.
Vous entendez à l'accent qu'il aime les piscines un peu plus chaudes, Jérôme, si je puis me permettre.
Sans hésiter. On en parlait hier, Mathieu, des déboires de l'Olympique de Marseille, la démission surprise de l'entraîneur, les mauvais résultats. Ils ont joué hier soir en Ligue 1, ça ne va pas beaucoup mieux ce matin. L'OM a concédé le nul de partout à Lens après avoir mené 2-0. Mais finalement, à bien y regarder, Jean-François Pérez, ce résultat c'est presque un moindre mal après la folle semaine à Marseille.
Oui, tout était réuni pour une déroute de l'OM, mais il faut croire que ce club n'est vraiment pas comme les autres. C'est en effet avec des regrets que les Marseillais ont quitté Lens. Ils menaient 2-0 à la mi-temps grâce à Thauvin et au premier but du Polonais Milik. Trop beau pour être vrai sans doute. Deux buts lensois au retour des vestiaires ont réveillé les démons. Mais il faut croire que l'OM avait assez souffert ces derniers jours. De partout, au grand soulagement de l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet.
On a des garçons qui étaient effectivement marqués. J'étais marqué comme eux parce que prendre l'équipe à quelques heures pour les amener ici à Lens, qui n'était pas un match facile. C'est vrai que mentalement, ils étaient en difficulté, mais le fait de mettre au cœur du sujet le collectif, l'engagement, la générosité, c'est ce qu'on a vu ce soir.
Le courage de cet OM n'a pourtant pas suffi à masquer ses limites. Dimanche soir, c'est le Paris Saint-Germain qui débarque à Marseille. Les supporters grondent toujours. Le nouvel entraîneur n'est pas encore arrivé. Le psychodrame devrait connaître d'autres épisodes. Lens, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et Marseille 9e du classement ce matin. Les Lillois restent premiers, victoire 3-0 à Bordeaux.
Merci beaucoup, j'allume mon micro, ça marche mieux. Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On les connaissait pour leur comédie, Intouchable, Samba, Hors Normes, Le Sens de la Fête. C'est dans un tout autre registre qu'Olivier Nakache et Eric Toledano sont de retour. Une série diffusée sur Arte à partir d'aujourd'hui, mais qui connaît déjà un immense succès en ligne, 6 millions de vues en thérapie. 35 épisodes, 35 séances de psychanalyse. On en parle avec les deux réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Nakache, invités du Tête à Tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après avoir sauvé la zone euro en 2012, Mario Draghi va-t-il sauver l'Italie? L'ancien président de la Banque Centrale Européenne est appelé au secours de l'économie la plus malade d'Europe.
Comme un urgentiste au chevet d'une économie italienne exsangue qui a subi l'an dernier une récession de 8,9%, alors les marchés financiers applaudissent. Hausse de la bourse de Milan, réduction de l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, le capital de confiance de Super Mario est intact. Il sait parler au monde de la finance. Saura-t-il parler aux Italiens? C'est beaucoup moins sûr. C'est un technocrate sans aucune expérience parlementaire. Il avait sorti le bazooka, avait-on dit, pour sauver la zone euro de la crise en 2012. Eh bien, c'est avec un bazooka que l'attend une grande partie de la classe politique italienne aujourd'hui.
Une classe politique qui sait pourtant que l'Italie traverse une crise économique sans précédent.
Alors, c'est quelque part la chance de Draghi, qui a aussi un autre atout dans sa manche. L'Europe s'est montrée très généreuse à l'égard de la troisième économie de la zone euro. L'Italie va en effet bénéficier de la manne des fonds européens pour financer un plan de relance de 223 milliards d'euros. Alors, vu de Bruxelles, il est rassurant que la mise en œuvre de ce plan, ce véritable plan Marshall, soit pilotée par une personnalité aussi sérieuse que Mario Draghi. Il avait d'ailleurs lui-même fixé le cap que devra suivre son nouveau gouvernement. C'était l'été dernier. Draghi se préparait déjà dans l'ombre à devenir Premier ministre. Il avait alors expliqué que l'argent levé sur les marchés par l'Europe devait être utilisé, je cite, pour produire de la bonne dette à des fins productives, investissement dans le capital humain, les infrastructures, la recherche, bref, un programme dans la droite ligne de l'orthodoxie bruxelloise.
La dernière fois qu'un pur technocrate avait appelé à la rescousse pour gérer l'Italie, ça avait mal fini.
Oui, c'était Mario Monti, il y a 10 ans, en pleine crise financière. La grande différence, c'est que Monti était arrivé pour mettre en place un plan d'austérité, pour tenter de remettre les comptes publics d'équerre. C'était parfaitement impopulaire. Là, c'est presque le contraire. Draghi arrive avec un énorme budget à dépenser pour soutenir l'économie. C'est Draghi, pas Emmanuel Macron, qui a inventé la formule « quoi qu'il en coûte », formule utilisée à l'époque pour sauver les économies les plus fragiles de la zone euro. Il va falloir l'appliquer à un pays malade au point d'être l'un des seuls en Europe à ne pas avoir retrouvé le niveau de richesse par habitant d'avant la crise de 2008. C'est dire la mission qui attend celui qu'on surnomme peut-être un peu trop tôt le sauveur de la patrie.
Parfois on l'appelle juste Super Mario.
C'est vrai.
C'est moins risqué comme surnom. Merci beaucoup Nicolas Barré, l'éclairage éco. 7h18 sur Europe 1, Vincent Hervouet est avec nous. Le regard international de Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathieu.
Russes et Américains ont signé in extremis la prolongation pour 5 ans du traité sur les armements nucléaires.
Oui, il était moins une, ou plutôt moins deux. Il devenait caduc demain. Le New Start plafonne à 1550 ogives nucléaires chacun des deux arsenaux. Il reste largement de quoi vitrifier la surface de la Terre, mais c'est quand même un progrès par rapport à l'an 2000, 30% de missiles en moins. Le New Start porte mal son nom, il rappelle la vieille guerre froide, quand les deux super-grands restaient sur le qui-vive en cherchant des modus vivendi. Mais on en est un peu là parce que la confiance n'a jamais été aussi basse entre Moscou et Washington depuis 30 ans, depuis la fin de l'Union soviétique.
Donald Trump l'aurait laissé tomber en poussière.
Et c'est sans doute pour ça que Joe Biden a pris la peine de le prolonger. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il est enchaîné à son bureau et en cela comme pour le reste, résolu à faire le contraire de son prédécesseur. Pas un tweet, mais des décrets qu'il signe du matin au soir devant les caméras.
Alors priorité au plan de sauvetage de l'économie, pas à la politique étrangère.
Le président a quand même décrété la fin du chantier du mur à la frontière mexicaine, la délivrance de visas aux ressortissants des pays islamiques, mais c'est vrai, c'est la suite des mesures symboliques qui avaient été prises au premier jour de sa présidence. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'état de grâce se termine. Joe Biden a eu beau recevoir des élus républicains dans le bureau ovale, il n'en a convaincu aucun de voter son plan à 1900 milliards de dollars. La même désillusion est à prévoir en politique étrangère. L'entourage du président dénonce à qui mieux. Il dénonce les militaires birmans, les dirigeants vénézuéliens, les menées contre-productives de l'Iran. Anthony Blinken s'indigne du sort réservé à Navalny et menace. « Nous allons faire rendre des comptes à la Russie », dit-il. Le ton est ferme. Le contraire de Donald Trump qui répugnait à s'en mêler. Mais en réalité, les États-Unis signent le New Start et aucun dialogue n'est relancé. Il ne se passe rien. Si, quand même, la nouvelle équipe a réclamé à la CIA un rapport sur tout ce qu'elle reproche aux Russes. Commander un rapport, c'est ce qu'on fait quand on veut gagner du temps.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h20 sur Europe 1 et tout de suite, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo l'affirment, ces Jeux auront lieu, quoi qu'il en coûte. Tiens, Virginie Fulpin est dubitative, l'édito sport dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Jeux Olympiques de Tokyo auront bien lieu cet été, quoi qu'il arrive. Le patron du comité d'organisation japonais est affirmatif. Pour vous, Virginie, ça tient plus de la méthode Kue que d'une certitude absolue. Ça ne sert à rien de s'emballer.
Bah, qui peut encore être certain de quoi que ce soit aujourd'hui? J'imagine que vous ne dites pas « cet été, je pars en vacances en Italie ». Vous dites plutôt « cet été, j'aimerais bien partir en vacances en Italie ». En 2021, on oublie le futur, on révise le conditionnel. c'est insupportable pour tout le monde et donc pour les athlètes, pour qui ces JO sont l'objectif d'une vie. Mais là, c'est un peu malhonnête d'affirmer de manière aussi péremptoire que les Jeux Olympiques auront lieu. Regardez ce qui se passe pour le tennis en Australie aujourd'hui. Les joueuses et les joueurs ont tous été mis en quarantaine à leur arrivée. Les cas contacts ne sont pas sortis de leur chambre d'hôtel. Benoît Paire n'est même pas sorti de son lit, lui. Et les autres ont eu droit à quelques heures d'entraînement par jour avec un règlement sanitaire très strict. On rigole pas avec ça en Australie. Toutes les précautions ont donc été prises. Et pourtant, là, ce matin, il n'y a personne sur les cours. Un cas de Covid découvert dans un hôtel où des joueurs ont séjourné. Donc, on annule tout pour aujourd'hui. On trace, on teste, on met à l'isolement et on rejouera demain. Enfin, peut-être. Vous voyez, on ne sait absolument pas si l'Open d'Australie pourra avoir lieu ni comment. Et pourtant, ça commence lundi, hein. Alors, les Jeux Olympiques, dans plus de 5 mois, le patron du comité d'organisation japonais devrait mesurer ses propos. Ça ne sert à rien de vendre du rêve quand on est ballotté entre les flux et les reflux du virus.
Oui, hein. Méthode Kwe, ok, mais il a quand même dit « quoi qu'il arrive ».
Ça, c'est vraiment la formule de l'année, hein, le « quoi qu'il en coûte » appliqué aux Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'on sait déjà que les sportifs ne pourront pas aller dans les bars, pas faire de shopping, pas monter dans les transports en commun. Donc, il n'y aura pas de Club France, par exemple. Vous savez, cet endroit où nos athlètes fêtent leurs médailles et noient leur chagrin. Donc, on sait ce qu'il n'y aura pas, ça ne veut pas dire qu'on est sûr de ce qu'il y aura. Quand on voit ce qui se passe en Australie, malgré la politique du zéro risque, comment ça pourrait se passer au village olympique ? Alors, comme les Jeux sont prévus dans quelques mois, on se dit que la vaccination aura avancé. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut vacciner tous les participants aux Jeux pour limiter les risques ? Est-ce qu'on les fait passer avant les populations fragiles et prioritaires ?
Oula, on veut le débat.
Ouais, là, on arrive à des questions qui touchent l'éthique. Donc, je trouve ça un petit peu court de conclure simplement « les Jeux Olympiques auront lieu, quoi qu'il en coûte ». On en rêve tous de ces Jeux, hein, mais là, on prend un petit peu trop tôt, je pense, nos rêves pour des réalités.
Mais je reprends ce que vous disiez au début, Virginie. Cet été, j'aimerais partir en vacances en Italie. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien qu'il y ait les JO. Au moins,
oui,
mais
voilà.
À la maison.
Mais vous entendez le conditionnel.
Oui, bien sûr, bien sûr. Virginie Fulpa, l'édito sport. Merci Virginie. Il est 7h24 et on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais pourquoi de façon goguenarde nos amis Rosbif, comprenez les Anglais, nous appelle les Froggies? Voilà la question à laquelle je vais répondre ce matin en toute amitié. Hein, vous connaissez ma passion pour l'Angleterre et sa monarchie.
Alors, Froggies, c'est les grenouilles. Hein. J'ai toujours entendu dire que c'était à cause, ou grâce d'ailleurs, hein, à notre passion culinaire pour les cuisses de grenouilles. C'est pas ça?
C'est ça, mais pas que. À Paris, au XVIIIe siècle, là où aujourd'hui se trouve le musée d'Orsay, il y avait une berge marécageuse dans laquelle de nombreux batraciens faisaient un bruit de tous les diables. Le quartier était réputé pour ses lavandières et ses blanchisseuses. On y parlait un patois assez rustre, jugé simple par les gens de la haute société. Rapidement, à la cour de Versailles, puis à Londres, où, je vous le rappelle, bon nombre de nobles se sont réfugiés à la Révolution, on désignait ces gens par le mot « grenouille ». C'est ainsi qu'on parlait des révolutionnaires français, puis des Français tout court, surtout pendant la période napoléonienne, qui était, il faut bien le dire, l'apogée de la détestation entre nos deux pays. Terminons sur un joli proverbe, « poser une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare ».
À méditer. En cuisinant peut-être des cuisses de grenouilles, c'est bon, hein, Stéphane.
Oui.
Vous aimez?
Oui, alors dans l'émission, Olivier Pouls vous donnera la recette.
Ah super, à 16h tout à l'heure dans Historiquement Votre.
Absolument.
Voilà un premier élément du programme.
On a réuni dans cette émission Sigmund Freud, Françoise Zolto et Marc-Olivier Fogiel. Leur point commun, vous l'avez compris, allongez-vous sur le divan. Oui, c'est le thème d'Historiquement Votre avec Mathieu Noël cet après-midi.
À tout à l'heure, 16h. 7h26 sur Europe 1, à suivre Laurent Cabrol, la météo et un nouveau journal à 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et pour ceux qui se déplacent aussi, les départements vigilants, je les donne rapidement parce qu'ils sont nombreux. Somme, Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Aube, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, les Deux-Charentes, la Gironde, la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne en vigilance rouge. Tout le reste en vigilance orange, je vous le donne parce que c'est important pour ceux d'entre vous qui circulent et qui doivent traverser ces départements. Beaucoup, beaucoup de routes sont coupées. Aujourd'hui, c'est un peu une journée de répit, avec quelques averses seulement le long des côtes de la Manche. Sur la région parisienne et les Hauts-de-France, cet après-midi, peut-être une averse, mais sur Paris et comme la région, nous n'aurons pas beaucoup d'intempéries aujourd'hui, très peu. Ce matin, il pleut sur les côtes de Bretonne, il pleut sur la Gironde, les Landes, la Dordogne, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, ces pluies vont gagner le Massif central, la Saône-et-Loire, la Franche-Comté et le Haut-Rhin, ce sont les seules régions où vraiment il pleuvra. Et puis un temps sec sur le Midi-Pyrénées, le Lot, l'Aveyron, la PACA, la région PACA, le Massif massif alpin et la région lyonnaise. Sur la Méditerranée, le vent marin s'est levé. Température maximale, j'aurais presque tout dit, 13 à 16 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, presque 7h30, un nouveau journal.
400 000 cancers sont détectés chaque année, c'est-à-dire que dans sa vie, une personne sur deux, un peu plus, fera un cancer. C'est un fait de société.
Les mots du président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron dévoilera son plan de lutte contre la maladie aujourd'hui. Au programme, plus de prévention et de meilleurs traitements. Twitter attaqué en justice pour avoir laissé sans suite des affaires de harcèlement en ligne. Richard Berry, soutenu par son ancienne compagne, continue de nier les accusations de viol portées par sa fille aînée. Et puis Clarisse Kremer, nouvelle détentrice du record féminin du Vendée Globe. La Parisienne a bouclé son tour du monde hier, son récit à la fin de ce journal.
Et juste après la touche âme, Bertrand Chameroy, son regard décalé sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache. Nicolas Bétou, l'édito politique de la difficulté de préparer des élections, de la démocratie au temps du Covid. Juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, vous le savez, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répond à vos questions au 39-21. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron présentera tout à l'heure sa stratégie de lutte contre le cancer pour les 10 prochaines années en cette journée mondiale de lutte contre la maladie, responsable de près de 150 000 morts par an en France. Le chef de l'État devrait annoncer la poursuite d'un effort financier pour la recherche de nouveaux traitements, mais aussi pour renforcer le dépistage.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Que faut-il attendre de ce plan de lutte ?
Alors parmi les priorités affichées par l'Élysée, on trouve notamment le renforcement de la prévention avec un objectif de réduire encore de 60 000 le nombre de cancers évitables d'ici 2040. Aujourd'hui, 4 cancers sur 10 pourraient être évités, notamment ceux qui sont dus au tabac, à l'alcool. Et le président veut mieux sensibiliser les Français à la prévention par le mode de vie, notamment les plus jeunes. Autre objectif, améliorer le dépistage, car une tumeur repérée tôt se guérit mieux. Ce plan cancer prévoit de réaliser 1 million de dépistages supplémentaires d'ici 2025. Frottis, mammographie, il faudrait aussi renforcer le dépistage du cancer du côlon, encore mal suivi, et faire naître de nouveaux tests pour repérer plus tôt des cancers du poumon ou de la prostate, par exemple. Enfin, dernier axe, améliorer la recherche pour les cancers de mauvais pronostic et réduire d'un tiers le nombre de patients souffrant de séquelles après les traitements. Cela passe notamment par la chirurgie réparatrice et une meilleure évaluation des effets secondaires des médicaments. Pour accompagner cette feuille de route, l'Élysée annonce une première enveloppe de 1,7 milliard d'euros sur 5 ans.
L'événement ce matin sur Europe 1 à 8h15, Sonia Mabrouk recevra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui répondra ensuite à vos questions. Vous pouvez les poser, inscrivez-vous dès maintenant, 39-21 et le hashtag Darmanin Europe 1 parmi les sujets abordés. Évidemment, la loi séparatisme, il sera aussi question de la loi sécurité intérieure et du harcèlement en ligne.
Et à ce propos, 3 Français viennent d'attaquer Twitter en justice. C'est une procédure inédite en France. Tous les 3 ont été victimes de cyberharcèlement, mais leurs plaintes ont été classées sans suite. Le réseau social n'a jamais répondu aux requêtes judiciaires qui visait à identifier les harceleurs. Clément Le Saffre.
À l'été 2019, Nicolas Hénin, ancien otage de l'État islamique, prend position sur Twitter en faveur du rapatriement des enfants de djihadistes français retenus en Syrie. Ses propos lui valent une vague d'insultes et de menaces de mort. Il porte plainte, mais quand la justice demande des informations à Twitter, le réseau social ignore la requête.
Cette négligence de Twitter, je la vis personnellement comme une violence. Parce que si jamais vous arrive demain quelque chose sur Twitter, si vous faites harceler ou vous faites menacer, Twitter ne fera rien pour vous protéger.
Avec Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan, et Georges Saline, père d'une victime de l'attentat, tous deux confrontés au même problème, Nicolas Hénin a donc décidé d'assigner directement Twitter en justice pour refus de déférer à une demande d'une autorité judiciaire et complicité des délits d'injure publique. Pour maître Éric Morin, l'avocat des 3 plaignants, il faut que Twitter prenne ses responsabilités.
On espère une jurisprudence, mais on espère aussi que Twitter donne enfin des explications sur cette modération qu'il ne fait pas et cette coopération qu'il refuse de faire. S'il veut être hors de toute loi, qu'il le dise, et à ce moment-là, les utilisateurs de Twitter sauront qu'ils sont en danger.
Contacté par Europe 1, Twitter n'a pas souhaité commenter la procédure en cours. Une première audience se tiendra le 13 avril.
Une affaire de harcèlement en ligne, justement à Béziers. 3 jeunes filles, dont 2 mineurs, ont été mises en examen et placées en détention provisoire hier. Après l'agression filmée, puis diffusée sur Internet d'une autre jeune femme de 18 ans, c'était fin janvier. Agression purement gratuite, selon la victime.
7h34 sur Europe 1. D'un côté, un dépôt de plainte. De l'autre, un démenti absolue. La justice enquête dans l'affaire des accusations d'inceste contre Richard Berry.
Accusation portée par sa fille aînée, Colline, qui maintient ses propos. Bien souvent, dans ce type d'affaires, c'est parole contre parole. Richard Berry, lui, continue de nier fermement les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, Jean-Jacques Herry, il livre sa version des faits.
Et l'acteur bénéficie du soutien de Jean Manson, sa compagne à l'époque. Visée elle aussi aujourd'hui par une plainte pour viol, la chanteuse a d'abord affirmé s'associer pleinement au démenti de Richard Berry avant de reprendre la parole hier soir dans un message enregistré sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8.
En aucun moment ai-je eu connaissance de faits à caractère incestueux de la part de Richard.
Colline Yégel, de son côté, a répondu à son père via le même réseau social, définissant sa plainte comme un acte grave, réfléchi et pondéré. Mon père essaye de me confisquer la parole, dit-elle. Ces mensonges ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici. Dans son combat, Colline, 45 ans aujourd'hui, peut compter sur sa mère, Catherine Yégel. Je suis aux côtés de ma fille, a déclaré cette dernière à nos confrères du Point. Autre soutien déclaré, celui de sa cousine Marie-Lou Berry, la nièce de l'acteur.
Et puis, près d'une semaine après Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, Clarisse Kremer a franchi hier matin la ligne d'arrivée de la course. Première femme à boucler ce tour du monde en solitaire.
Oui, Clarisse Kremer termine à la 12e place pour sa toute première participation, mais surtout avec 87 jours, 2 heures et 24 minutes. Elle vient d'exploser le record féminin du Vendée Globe, détenu jusqu'alors par Hélène MacArthur, et c'est plus de 94 jours. Le récit de son périple ce matin au micro de Sébastien Krebs.
C'est vrai que j'ai fait le choix de partager les bons comme les mauvais moments pour montrer un peu toutes les facettes de ce qu'on vit en mer, parce que c'est pas toujours facile, et en même temps c'est ça qui fait que c'est une aventure intéressante, parce qu'on est content après d'avoir surmonté les moments difficiles, et puis voilà, on est livré à nous-mêmes et on se demande un peu comment on va s'en sortir. On n'a pas trop d'échappatoire et on peut compter sur personne d'autre. Il faut continuer de faire avancer son bateau. On est dans l'action et de cette façon-là on finit par retrouver des repères et à s'en sortir psychologiquement. Mais je pense aussi, moi j'ai été aussi pas mal en contact avec mes proches et avec mon équipe dans les moments durs, et ça permet d'avoir aussi un petit soutien psychologique. On triche un peu par rapport à autrefois quand il y avait zéro contact avec l'extérieur.
Clarisse Kremer, invitée du 5-7 de Sébastien Krebs. Et puis le foot, 23e journée de Ligue 1 hier soir, carton plein pour les trois premiers, Lille, Lyon et le Paris Saint-Germain, vainqueurs respectivement de Bordeaux, Dijon et Nîmes. L'Olympique de Marseille, en pleine crise, a réussi à arracher un match nul à Lens de partout.
Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Merci Sophie. Il est 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'événement ce matin sur Europe 1, à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il répondra à vos questions ensuite, je vous le disais. Inscrivez-vous dès maintenant, vous le savez, il y aura beaucoup d'appels 3921 ou alors les réseaux sociaux et le hashtag Darmanin Europe 1. Mais avant cela, toute autre chose, vous vous souvenez sans doute de cette musique. Intouchable, plus grand succès de l'histoire du cinéma français, réalisé par le duo Éric Toledano-Olivier Nakache, et on les retrouve, autre format, autre ambiance, autre piano. Direction le divan du psy, mes amis, série événement de ce début d'année, diffusée à partir de ce soir sur Arte, en thérapie. Olivier Nakache, Éric Toledano, invité du tête-à-tête Europe Matin dans quelques toutes petites minutes. Mais d'abord, votre nouveau rendez-vous de la matinale, La Touche Âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous parle aussi de cinéma et de stratégie vaccinale. Quel est le rapport? Réponse dans un instant.
A tout de suite, il est 7h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h39 sur Europe 1. Bertrand Chameroy, La Touche Âme. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez vaccin.
Oui, vaccin et cinéma. Hier, le ministre britannique de la Santé a expliqué que sa stratégie vaccinale lui a été inspirée par le film de Steven Soderbergh, Contagion. C'est une vraie info dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu. Alors, je rappelle le pitch du film. Un virus mortel qui se transmet notamment par les poignées de main se propage rapidement dans le monde entier jusqu'à devenir une pandémie. Les médecins internationaux cherchent un remède pendant que la société se délite. La science-fiction, c'est tellement gros parfois. Oui, bon, ce film, c'est notre vie depuis un an, mais avec une belle image et la bonne BO. Et Olivier Véran, britannique, explique qu'il a remarqué que dans le film, la tension explose au moment où il faut établir un ordre de priorité dans la vaccination, situation qu'il a voulu éviter en commandant un stock suffisant de doses. D'où ma question, de quel film la stratégie vaccinale française s'inspire donc-elle? Non, le premier qui répond, les sous-doués, un gage. Arrêtez avec ça. Non, j'ai mené ma petite enquête, Mathieu, et je pense avoir trouvé. À mon avis, il y a une VHS de La Cité de la Peur qui traîne quelque part à l'Elysée, et ils ont regardé le film il n'y a pas longtemps. Oui, ils se sont inspirés du film de Les Nuls. Si.
D'ici à la fin de l'été,
nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin.
Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes.
Pas sûr.
Si, si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite.
Il a pas l'air de bluffer, là, quand même.
Si, il bluffe, là.
On est en plein dedans. Alors pour ceux qui en doutent encore, écoutez Olivier Véran. Hier, il était en visite dans un centre de vaccination de Suresnes et il répondait à un monsieur qui l'interrogeait sur la disponibilité des vaccins. Écoutez la réponse du ministre de la Santé, elle est clairement tirée de la Cité de la Peur.
Il y aura toujours, il y aura à la fois, on n'aura jamais assez de vaccins tout de suite, mais on aura toujours assez de vaccins au bon moment.
Ça, alors excusez-moi, mais
je l'ai.
Ça vous rappelle rien ?
On peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une. Non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes.
Bon ben, si l'adaptation gouvernementale continue à être aussi fidèle, ce que je souhaite vraiment du plus profond de mon être, on n'est pas à l'abri d'une carioca surprise ce soir lors du point presse de Jean Castex et Olivier Véran.
Oh non, il va pas le faire.
Sais-tu doser l'AstraZeneca ? Ce n'est pas un Pfizer, un Moderna. C'est vraiment très très compliqué. Pour se faire comprendre, on nous saisit pas. Youpi, dosons l'AstraZeneca. C'est bien, d'ici juin on y sera. Alors Jean Castex et Olivier Véran vont-ils débouler à leur point presse avec des maracas ? Réponse ce soir à 18h.
Comment dire ? Merci Bertrand. Heureusement que 2 minutes.
Deux minutes, pas plus.
Je peux pas.
Vraiment, non, mais
je ne tiens pas. Oui, le coup de fouet de la matinale. Alors là, j'ai lu ça dans Télérama. Le coup de fouet de la matinale, Bertrand Chameroy. Merci 1000 fois. On vous retrouve tout à l'heure à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média. L'invité de Philippe Vandel, c'est Clémence Poésie, que vous voyez, que vous observez, que vous analysez, je cherchais mon mot, dans En Thérapie, justement. La série de mes invités tout de suite. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9.
Intouchable, samba, hors norme, le sens de la fête, le succès incontestable d'Éric Toledano et Olivier Nakache au cinéma. Il se lance dans la série, adaptation de Bitipool, une série israélienne. 35 épisodes sur le divan du psy. Le contexte ? Psychanalyse dans les jours qui suivent les attentats du Bataclan. En thérapie, sur Arte, ce soir, déjà 6 millions de vues en ligne. Mes invités donc, les réalisateurs d'En Thérapie, Éric Toledano et Olivier Nakache.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Éric Toledano, Olivier Nakache, bonjour.
Bonjour.
Alors le monde ne cesse de se fermer, de se refermer, et vous nous proposez un huis clos. Hein.
Oui, c'est notre façon à nous de s'ouvrir à vous.
Cela dit, vous avez terminé le tournage, je crois, juste avant le confinement.
Oui, 3 jours avant le premier confinement, on a fait une fête de fin de tournage, vraiment 3 jours avant le premier confinement, on s'attendait pas du tout à ça.
On appelait la cluster party.
Et on venait de passer 70 jours confinés dans ce cabinet de psychanalyse, donc ça a été pour nous une continuité. Mais c'est vrai que là, le timing est très particulier pour nous. Cette série sort dans ce moment-là très particulier de notre histoire.
Ouais. C'était ma dernière question. J'en déduis que la saison 2 sera celle du Covid.
On y réfléchit. Je ne peux pas vous dire tout de suite la saison 2, c'est celle du Covid. En tout cas, ce qu'on traverse, ça laisse des traces.
Ça donne peut-être la possibilité à une saison 2, en tout cas.
Alors, je le disais, celle-ci a pour cadre les attentats du Bataclan. Et j'ai une question qui est presque délicate à formuler. Je voulais vous demander si ces attentats ne sont pas un prétexte pour raconter les gens, leur vérité, les émotions auxquelles on peut tous se raccrocher, alors qu'en même temps, ce que vous faites, c'est aussi une chronique, un récit des attentats de novembre 2015, une analyse, Éric Toledano.
C'est pas un prétexte, parce qu'on cherche pas de prétexte quand on écrit, c'est plus une nécessité de verbaliser à un moment où le manque de verbalisation pourrait être dangereux. Si on avance comme on avance de façon effrénée, en ce moment, dans un rapport au temps qui est étrange, où il y a moins de réflexion, moins de profondeur et où on veut tout de suite, si à un moment on ne regarde pas un tout petit peu dans le rétro et si on n'analyse pas pourquoi on devient fragile, quel impact ont ces attentats sur nous, sur nos enfants, sur nos vies, alors ouais. Je pense qu'on devient moins humain. Moi, je suggère de ne pas faire comme on fait aujourd'hui dans la consommation, c'est-à-dire de ne pas manger toute la série d'un coup, parce que comme une séance de psy, à chaque fois qu'on s'arrête, normalement, on part avec une réflexion qui, normalement, doit permettre de cogiter pendant un temps. Il y a, en tout cas, dans le rituel que représente la psychanalyse, de remettre, en tout cas, le temps long, Et donc, effectivement, à tout manger d'un coup, on grille, oui, un peu les étapes.
Et c'est vrai que moi, j'ai regardé les épisodes d'une traite. Peut-être qu'il faut un peu prendre le temps. Alors, on entre en psychanalyse avec vous. Hein, et on observe que les personnages se sentent uniques face au psy, parfois même plus forts que lui. On entend des « je sais bien ce que vous faites, vous voulez me faire dire que », etc. Les patients, c'est amusant, ils y vont volontairement. Et une fois qu'ils y sont, ils sont sur la défensive.
C'est un rapport étrange. Effectivement, il y a une forme parfois, pas d'agressivité, mais de résistance. Mmh. C'est vrai que nous, en tout cas, ce qu'on voulait traduire avec ces comportements-là, c'est que, toujours dans ce même rapport au temps, parfois les gens arrivent en disant « je veux une solution maintenant, réparez-moi », comme si j'allais chez le garagiste. Or, le travail de la psychothérapie, c'est quand même un temps long. Il s'agit d'un problème psychique, il y a un problème de traumatisme ou alors de fragilité. Il faut donc rentrer dans un travail où chacun va aller à la recherche de son narratif, de ce qui lui est arrivé, pour lui donner une interprétation peut-être différente.
Olivier Nakache, il faut accepter de perdre le contrôle.
Ah oui.
Là, c'est le lâcher prise, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, c'est d'autant plus facile face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que là, on a dû faire en sorte que ces patients, de séance en séance, parviennent à dénouer leurs nœuds dans ce contexte-là, où la France a été blessée.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on se rend compte qu'on ne va pas trouver forcément ce qu'on est venu chercher quand on rentre dans une cure. On vient, encore une fois, chercher une nouvelle interprétation sur le narratif qu'on a construit de sa vie. On a chacun un narratif. On est né quelque part dans une famille avec des parents, un contexte social, culturel. Oui. Tout ça demande à être réinterrogé à un moment, pour ceux qui en ont envie en tout cas. Et c'est ce que propose en thérapie.
Alors ce psy, le docteur Dayan, que le vieux conisme guette. Tiens d'ailleurs, j'adore cette expression. On peut définir là le vieux conisme, Éric Toledano ?
Le vieux conisme, c'est peut-être... À un moment, quand on sent que voilà, on est passé de l'autre côté, qu'on a basculé, que votre, peut-être que quand votre enfant ou adolescent vous regarde en faisant la moue et en soufflant, c'est qu'on est atteint d'un début de vieux conisme. Mais c'est vrai que c'est une expression de Dayan, parce qu'il se remet en question devant Esther, devant Carole Bouquet, et qu'à un moment il est lui-même totalement ébranlé par ce qui vient de se passer dans la société, et que au dehors, c'est un peu la guerre avec tous ces attentats, et que lui, il est dans une espèce de bunker, oui, qui est son cabinet.
Alors là, les dialogues sont ciselés, hein, je le dis pour nos auditeurs, dans ce huis clos, on est face à face. Olivier Nakache, est-ce qu'il y a eu sur le tournage une part d'improvisation ?
La part d'impro, c'est difficile. L'impro, c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit cadré. Et là, quand on a affaire à un texte qui est tellement, comme vous venez de le dire, tellement ciselé, c'est de la dentelle, on ne peut pas partir dans tous les sens. Cela dit, on faisait des prises longues, parce que pour arriver à une émotion, l'acteur ou l'actrice devait faire le chemin aussi de cette prise, raconter, quand elle va convoquer un rêve ou convoquer un souvenir de jeunesse, il faut le temps pour le raconter et parvenir à une émotion. Donc de temps en temps, on laissait l'acteur libre d'y aller, d'y parvenir avec sa méthode à lui. Donc de temps en temps, on a eu des lapsus, on a eu des larmes qui sont arrivées alors qu'elles n'étaient pas du tout prévues. Mais évidemment, on a guetté ces moments. Pour nous, ce sont des petites pépites.
Et il faut souligner le casting de cette série. Vous avez mentionné Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaille, entre autres, bien sûr. Et puis, puisqu'on parle de la famille du cinéma, je voudrais dire un mot des Césars. Éric Toledano, vous êtes le vice-président de la cérémonie. Les salles sont fermées, mais on va quand même célébrer le cinéma alors que les films ne sortent pas.
Il y en a quand même 120 qui sont sortis, donc on ne va pas les mépriser, on ne va pas faire comme s'ils n'avaient pas existé. Et puis surtout, on ne va pas faire comme si le cinéma allait rendre l'âme. On va montrer notre énergie, notre vivacité et notre envie de combattre pour que très vite les salles puissent rouvrir et puis que les spectateurs puissent revenir et puis que toute la machine puisse rester debout. Et il faut absolument justement envoyer un signal pour dire que on est là et qu'on veut toujours continuer à célébrer le cinéma, à mettre en valeur les talents, les révélations, les nouveaux acteurs qui arrivent. Il y en a aussi beaucoup qui sont partis, il faut aussi leur rendre hommage. Je pense évidemment à Jean-Pierre Bacri.
On supprime l'entrée, là je suis complètement, c'est vrai. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal.
Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça.
Attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les mignardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et servi à la louche, à la louche.
J'espère que cette année, on pourra, malgré les contraintes sanitaires, fêter et célébrer quand même et faire en sorte que tout ça soit un mauvais souvenir et qu'on puisse repartir là-dedans et que surtout les plateformes, et c'est en particulier au moment où je défends une série, que je redéclare l'amour que j'ai pour le cinéma et la priorité absolue que Olivier et moi avons pour l'idée de faire des longs métrages.
Et en attendant, En Thérapie, c'est à regarder alors soit sur arte.tv, déjà 6 millions de vues en une semaine, c'est absolument énorme, ou alors en diffusion classique à partir de ce soir, mais retenez le conseil, prenez le temps de la regarder. Éric Toledano, Olivier Nakache, merci beaucoup à vous deux.
Merci Mathieu.
Merci Mathieu.
Et je vous conseille le podcast d'Europe 1 Studio, Sériland, Eva Rock avec Éric Toledano, qui reviennent sur l'écriture de la série, le casting de rêve, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaille, téléchargé Sériland, 7h51.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le Covid contamine toute la démocratie. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h52 sur Europe 1, l'édito politique, Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Un candidat, ou quasi-candidat de plus, Yannick Jadot, a lancé hier les premiers feux de sa campagne pour la présidentielle.
Oui, le paysage préélectoral commence à se peupler, mais en réalité, le contexte sanitaire donne un drôle d'air à toute cette activité. Je vous livre cette petite phrase lâchée au détour d'une conversation avec un chef de parti. En temps de Covid, le respect de l'égalité de traitement entre les candidats est une fiction. Alors, dit de façon plus brutale, ça donne... Il y a actuellement un lourd problème démocratique.
Lequel ? Je veux dire, qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui manque pour que l'égalité soit respectée ?
Il y a d'abord ce qui avait motivé le report des élections régionales, qui pourraient, vous le savez, se tenir en juin prochain, c'est l'impossibilité de faire physiquement campagne.
Mais c'est le cas pour tous les partis.
Oui. Mais il faut reconnaître que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont portés par une vague ou une notoriété qui les dépasse, je pense par exemple aux écolos ou aux républicains, eh bien ceux-là n'ont pas forcément besoin de faire un travail de terrain aussi intensif que les partis moins implantés et qui devraient avoir les mêmes droits. Il y a aussi autre rupture de l'égalité, l'impossibilité de préparer normalement les programmes et les échéances. Une députée me faisait remarquer qu'elle n'avait droit qu'à un visiteur par jour à l'Assemblée. Impossible donc de réunir des experts ou des collaborateurs, alors que du côté du pouvoir, bon, c'est un peu nos limites dans les ministères et à l'Élysée. Et puis, il y a toute l'effervescence qui devrait entourer la préparation d'un tel événement politique. Les meetings, les déplacements, les bains de foule.
Oui, et tout ça, ça devient impossible si le Covid et ses variants n'ont pas été vaincus.
Et oui, et pas de meeting ou de porte-à-porte, pas de tractage sur les marchés. C'est une attrition de la vie démocratique. Sans tous ces rendez-vous, impossible de tenir le haut de l'actualité pendant des mois. Alors ça veut dire que ce sont les réseaux sociaux qui prendront la main. Et on a vu aux États-Unis ce que ça peut donner comme dérive. Bon, au total, ce sera plus difficile pour les Français de se forger une opinion et de confronter ce qu'ils voient, ou plutôt devraient voir et entendre. Et la conséquence probable, eh bien, c'est un gonflement du niveau d'abstention, comme on avait déjà pu le constater au deuxième tour des municipales de l'an dernier. Et un éloignement toujours plus grand, un fossé qui s'élargit entre les Français et la politique.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins sur Europe 1. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et permettez-moi d'ajouter que Yannick Jadot, dont vous parliez au début de votre édito, sera l'invité du grand rendez-vous dimanche matin sur Europe 1 à 10h. Et tous les jours, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et c'est Nicolas Sarkozy qui souhaitait lui donner un petit conseil.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, Monsieur Caprole. Non, c'est à vous que je voulais donner un petit conseil, Monsieur Béliard. J'espère que vous avez vos attestations. Vous les avez. Tout sur toute cette table, là, sûr.
Tout le monde est en règle ici, je crois.
Non, parce qu'il est déchaîné en ce moment, le Gérald. Vous avez vu, 30% d'augmentation d'une semaine de verbalisation. Non. Je m'adresse à Gérald, franchement, je te le dis, calme-toi, tu vas te faire un claquage du carnet de contravention. C'est plus un ministre de l'Intérieur, c'est un producteur d'amandes. D'amandes comme Montebourg, producteur d'amandes. Non, il ne faut pas comparer ce qui est comparable, incomparable. Hein. Mes amendes à moi, elles sont à 135 euros. Non, mais non, pas 135 euros, c'est à 3,80 euros sachet de 250 grammes d'amandes. Allons. Oui. J'avais encore un truc à dire,
mais on m'a coupé le sifflet. Allez-y, monsieur le président.
Non, parce qu'en tout cas, je voulais dire à Gérald que je voulais dire que j'ai lisé son livre. Oui, sur le séparatisme. Oui, parce que j'adore l'ISEM, bah monsieur Bétou. Oui. J'ai le droit. Il sort un livre, comme ouais. Bruno Le Maire qui sort un livre aussi. Ils ont du temps de libre hein, dans ce gouvernement, c'est bien. C'est plus un gouvernement, c'est le cercle des poètes disparus. Mais franchement, mais vous qui connaissez la politique, monsieur Bétou, quand ouais. est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça?
La nuit?
Peut-être. Ou alors, j'ai une autre hypothèse, c'est tous des surdoués.
Ah, oui.
Et ils règlent leur dossier tellement vite qu'ils ont le temps d'écrire. Vous rendez compte, on est gouverné par des génies, on s'en rend même pas compte. Là, mais vous pouvez envoyer le jingle.
C'est votre force, Nicolas, contre Lou, c'est votre force. Il y avait plusieurs chutes dans le même sketch.
Et voilà, c'est ça. J'en ai encore d'autres.
Oh, bon, on va vous retrouver à 8h45 pour la revue de presse et d'autres chutes ce matin, vous l'aurez compris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à 8h15, il répond ensuite à vos questions au 39-21, 7h57. 7h59 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et plusieurs choses à vous dire. L'anticyclone est bloqué. Carrément, on ne le voit plus depuis Noël. Un mois et demi sans anticyclone. Avec cela, la fonte des neiges, la douceur, les grandes marées, les tempêtes, la tempête Justine. Et tout ceci s'est combiné pratiquement en même temps, ce qui provoque ces inondations énormes sur la France. Très nombreuses, très très nombreuses. 19 départements en orange, un en rouge. Bref, la situation est vraiment très difficile. Alors aujourd'hui, c'est une journée de répit, j'allais dire, avec encore un peu de pluie et une zone de pluie, Gironde, Landes, Dordogne, Corrèze sous la pluie, gagnant le Massif central, la Saône-et-Loire, la Franche-Comté et le Haut-Rhin dans l'après-midi. Mais partout ailleurs, ce sera un ciel à peine ponctué d'averses, notamment sur Paris, où pourrait y avoir une averse dans l'après-midi, comme sur les Hauts-de-France, peu de choses. Sur le sud, Midi-Pyrénées, sur le Lot, l'Aveyron, la région PACA, le Massif alpin et la région lyonnaise, là aussi, nous aurons très peu d'intempéries. Et sur le bassin méditerranéen, le vent marin s'est levé. Les températures entre 13 et 16 degrés. Un dernier mot pour vous dire qu'en Guadeloupe, il pleut également. 3 disparus en basse terre, 2 adultes et 1 enfant. Voilà, en raison de la montée des eaux d'un cours.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer.